Cette page est, comme tout l'évangile d'ailleurs, tout à fait magnifique, d'une des premières apparitions de Jésus à ses disciples après sa résurrection. Mais pour bien la comprendre, il nous faut la lire au présent et non pas au passé. Saint Luc nous y invite d'ailleurs très clairement. Il donne le nom de l'un des deux disciples, Cléophas, et le nom du second, nous le connaissons tous, c'est le nôtre. Alors relisons cet évangile comme notre propre histoire, celle qui se vit aujourd'hui, et remettons cet évangile au temps présent. Nous sommes comme notre ami Cléophas, notre compagnon de route, en train de nous éloigner si souvent de Jérusalem, le lieu où s'est opérée la rédemption par le Christ, le berceau de l'Église, le berceau de notre conversion. Parce que quand ça ne va pas dans notre vie, quand le découragement et la tristesse nous submergent, nous avons tendance, c'est la tendance naturelle, à nous écarter de ce lieu, du lieu du Christ. Alors tous nos défauts ressortent. Chacun a ses défauts personnels, heureusement qu'on ne les a pas tous, mais que l'on peut décliner selon les 7 péchés capitaux, la paresse, la colère, l'orgueil, la gourmandise, la luxure, l'avarice, la jalousie, et à partir de là, tous nos défauts, sans exception. Alors certes, on peut prier le Seigneur, on va faire des efforts pour lutter contre nos défauts, nous prions, nous nous confessons, mais on constate qu'ils sont toujours présents. Et comme avec notre ami Cléophas, nous avons cette même manie de penser que notre prière devrait nous débarrasser de ces défauts. Et nous qui croyons que le Seigneur allait tout arranger, qu'on n'aurait plus tel défaut qui nous énerve, qui nous humilie. Nous qui croyons que Jésus allait faire de notre vie quelque chose de pas trop compliqué. Et nous voilà toujours à patauger dans nos déficiences. Alors serait-ce que notre prière est inutile, mauvaise ? Non, c'est tout simplement que notre nature humaine a toujours une tendance naturelle à nous écarter de Jérusalem, de nous écarter du Christ. C'est la pente sur laquelle nous sommes et elle est, nous le savons, très glissante. Alors nous nous éloignons dans la tristesse et nous nous enfonçons dans le découragement. Parce que séparés de celui qui est la source et le terme de notre vie, nous ne savons plus assez, ni d'où nous venons, ni où nous allons. Et c'est la raison pour laquelle nous ne reconnaissons pas toujours le Christ dans notre vie. Il y a le Jésus des miracles, le Jésus des discours, de la vie intime de la communauté des 12 pendant son passage terrestre. Oui, là, les apôtres le connaissaient. Mais le Jésus de la gloire, le Jésus de la vie éternelle, celui que seule notre foi peut nous faire atteindre, les disciples ni nous ne le reconnaissons vraiment. Alors il nous faut emprunter le chemin de nos deux disciples, de notre ami Cléophas et de nous-mêmes, et revenir à la source. Les peuples cessent de vivre quand ils cessent de se souvenir. Ayant coupé avec Dieu, nous avons, par nos péchés personnels, mais aussi par l'enracinement du péché originel, nous avons perdu l'idée même de l'amour que Dieu nous porte. Nous ne savons plus ce que veut dire « aimer ». Ce mot est d'ailleurs tellement ambigu. L'Évangile nous en donne bien des exemples. Les apôtres, encore trop enfermés dans la vision restreinte de l'homme borné à son univers visible, ne sont pas encore entrés dans la grandeur du plan de Dieu. Nous n'imaginons pas quelle est la grandeur du plan de Dieu sur nous. Nous avons du prix aux yeux de Dieu et nous ne le savons pas. Le jour même de l'ascension, les apôtres ont encore posé la question « Est-ce maintenant que tu vas restaurer le royaume d'Israël ?» Que tu vas nous rendre une liberté physique, visible, et éloigner de nous le joug des Romains. Est-ce maintenant que le Christ va nous débarrasser, enfin, de nos défauts et faire de nous des hommes parfaits? Vision à court terme, dans laquelle le Christ est celui qui peut-être fait des miracles, mais dont nous ne percevons pas encore toute la portée de salut éternel. Alors il n'est pas étonnant qu'une société ainsi limitée s'enfonce dans une certaine décadence, la décadence de la médiocrité. Le pape Léon XIII, dans une encyclique « Rerum Novarum », « Toute chose nouvelle », disait « À qui veut régénérer une société en décadence, on prescrit avec raison de la ramener à ses origines. » Et c'est très exactement ce que Jésus fait en marchant à côté de Cléophas et de nous. Il reprend toute l'histoire du salut, toute l'annonce de l'Ancien Testament. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit, car tout est écrit. Quand on a une difficulté dans notre vie, ne cherchons pas ailleurs que dans l'Évangile. Tout est écrit dans l'Évangile. Il suffit simplement d'aller chercher. Alors Jésus nous rejoint sur notre route vers Emmaüs, loin de Jérusalem. Nous nous enfonçons de plus en plus parce que c'est l'heure, le jour baisse. Et il nous pose la question, à quoi pensez-vous dans votre vie, par rapport à votre vie personnelle? De quoi parlez-vous dans votre cœur? Que se passe-t-il pour que vous vous éloigniez du lieu de votre sanctification? À quoi pensons-nous dans notre prière par rapport à notre vie? Jésus veut ainsi établir avec nous un dialogue. Il veut nous installer durablement dans la prière. Peu importe qu'il fasse tard, que la nuit soit déjà tombée, Jésus veut nous faire revenir vers lui et vers le cœur de notre conversion, Jérusalem, l'Église. Tout au long de cette marche, Cléophas et nous voulons bien écouter Jésus. C'est ce que nous faisons à chaque Eucharistie, nous écoutons sa parole. C'est ce que nous faisons quand, à la maison, en prière, nous ouvrons la parole de Dieu. Nous voulons l'écouter. Cela peut prendre du temps. Mais si nous comprenons bien que c'est Jésus lui-même qui parle lorsqu'on ouvre une Bible, si nous voulons bien lui prêter attention, nous nous laisserons guider par Jésus. Il vient conduire notre raison à la découverte de la vérité. Même s'il n'y a pas de grands sentiments, de grandes exaltations, le cœur ne fait pas zinzin à écouter sa parole, Jésus parle et agit dans notre cœur. Même si nous ne le reconnaissons pas tout de suite, même si apparemment cette parole de Dieu ne nous dit rien, il nous faut l'écouter. Je me rappelle de la réaction, je ne sais plus si j'en avais déjà parlé, de François Michelin quand il a perdu son fils. Le jour des obsèques à Clermont-Ferrand, il était seul, assis au premier rang de la cathédrale. Il attendait que le cercueil de la dépouille de son fils arrive. Et un de mes amis va le saluer. Et François Michelin lui dit « Dieu est bien silencieux, mais il faut continuer à l'écouter ». Il avait tout compris. Que nous entendions ou non la parole de Dieu, il nous faut l'écouter. Il est assez curieux d'ailleurs de noter que Cléophas et nous nous avons du mal à le reconnaître. Pendant toute la marche, ils ne reconnaissent pas Jésus. Pourtant, Jésus n'a pas changé physiquement. La résurrection ne l'a pas transformé, c'est le même Jésus. Physiquement, c'est le même. Mais ils ne le reconnaissent pas, c'est quand même curieux. Parce que l'accueil de la résurrection du Christ n'est pas de l'ordre du constat physique. Ce n'est pas dans les grandes émotions que l'on reconnaît Jésus. C'est dans le silence de la foi. Et c'est une première indication importante pour notre vie de prière. Le cœur de notre prière est d'abord et avant tout une écoute silencieuse de la parole de Dieu. « Quand vous priez, avait dit Jésus à ses disciples, ne rabâchez pas comme les païens. » Les prières répétitives ne sont pas forcément mauvaises. Mais elles ne sont qu'une préparation de notre cœur à la prière du dialogue et de l'écoute. De l'écoute de ce qui peut nourrir nos âmes, éclairer notre raison et orienter notre volonté. Et c'est ce qui se passe, mais dans l'Évangile, c'est à leur insu. Ils ne s'aperçoivent pas tout de suite que c'est Dieu qui leur parle. Ils ne s'aperçoivent pas tout de suite qu'ils ont le cœur tout brûlant. Ce n'est qu'après. Pendant la marche, ils écoutent. Après qu'ils se soient assis avec lui, après que Jésus a rompu le pain pour eux, alors les yeux de la foi s'ouvrent, ils le reconnaissent. Mais il disparaît à leurs yeux. Et c'est là qu'ils constatent. Notre cœur n'était-il pas tout brûlant ? C'est ce qui nous arrive dans la prière. Au moment où nous sommes dans la prière, on peut ne rien ressentir, on peut s'ennuyer, on peut même dormir. Ça n'empêche pas Dieu d'agir. Ça n'empêche pas la parole de Dieu de descendre en nous. Mais si nous nous ennuyons et qu'à ce moment-là, on pose la parole de Dieu pour aller faire autre chose, nous n'entendrons jamais Dieu. Mais si nous savons être patients à l'écouter, même si nous ne comprenons pas tout, si nous sommes assez patients pour rester là. Mère Teresa, qui est un exemple, lorsqu'elle était 2 heures par jour devant le Saint-Sacrement, pensait qu'il n'était pas là et elle restait. Elle restait. Et c'est ce qui a fait la fécondité de sa vie de foi et de charité. Alors, voilà une indication précieuse pour notre vie de prière, savoir prendre le temps, donner du temps à Dieu pour qu'il nous parle. L'Évangile, enfin, se termine par les deux disciples, Cléophas et nous, si nous le voulons bien. Lorsqu'ils ont reconnu Jésus, qu'est-ce qu'ils font ? Ils se lèvent et ils repartent à Jérusalem. Ils repartent vers les apôtres, ils repartent vers l'Église, ils repartent vers le berceau de leur conversion et de leur vie. C'est le signe qu'il s'agit bien du Christ en nous. Le signe que notre prière est féconde, c'est qu'elle nous fait bouger, c'est qu'elle nous fait nous déplacer, c'est qu'elle nous fait nous lever pour repartir dans notre vie chrétienne, quelles que soient les erreurs passées, quelles que soient les fautes passées. Le signe de la fécondité de notre prière, c'est qu'on ne reste pas inerte, les bras ballants dans notre découragement. La question n'est pas de savoir si nous avons eu des émotions, des sentiments, j'y insiste. La question n'est même pas de savoir si on va progresser dans les vertus. Ça, c'est la culture du résultat dont il nous faut nous méfier. Comme de la peste. Le signe que notre prière porte ses fruits ne se mesure pas à l'envie qu'on a de prier, mais au désir qu'elle fait naître en nous de mieux aimer Dieu. Au désir qu'elle fait naître en nous de nous lever et de repartir vers nos frères. Au désir qu'elle fait naître en nous de ne plus être ces chrétiens consommateurs. Je viens pointer à la messe du dimanche, j'ai coché la case. Je coche la case de la prière du matin par un signe de croix que j'essaye de ne pas faire trop rapidement. Vous savez, les signes de croix pour cafétéria bombés, on n'a même pas la place de faire un signe de croix normal. Non, non, pas ces chrétiens consommateurs précisément, chrétiens actifs. Parce que nous aurons contemplé le Christ, nous deviendrons des contemples actifs au service de Dieu dans l'amour et la charité. Et comme Cléophas, avec Cléophas, nous nous lèverons pour annoncer Jésus-Christ. Voilà le signe que notre prière est féconde. On ne reste pas muet. On annonce Jésus-Christ. Par notre vie, pas la peine de prendre un haut-parleur. Par notre vie, nous aurons le souci de partager ce trésor de la parole de Dieu, enfin redécouvert. Je termine par là. Le pape François demandait comment vivre, pas penser, prier, non, comment vivre en communion avec le Christ, uniquement en retournant avec les autres, les deux disciples qui repartent à Jérusalem. Si tu veux le rencontrer, dit le pape François, ne cherche pas loin, reste dans la communauté avec les autres, ne t'éloigne pas, prie. Si nous cherchons le Christ dans un événement particulier, dans une manifestation religieuse spectaculaire ou éclatante, nous risquons fort de nous tromper. Si nous cherchons le Christ dans l'Église, en acceptant le défi d'y rester, même si elle n'est pas parfaite, nous sommes certains de le trouver.